Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
Bienvenue dans Récréation sonore sur Radio Campus Paris. Muriel Caes au micro ce soir. Ce soir, nous poursuivons la découverte des créations des étudiants du CréaDoc avec une pièce particulièrement actuelle, intime et combattante d'Enora Giboire. Dans Renvoi, Enora accompagne pendant 2 ans des amis dans leur parcours face à la justice, après une plainte contre leur ancien entraîneur de handball pour harcèlement sexuel. L'enquête est aboutie, il doit être jugé.
Allô.
There is no such thing as silence.
Le silence n'existe pas.
Something is always happening that makes a sound.
Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Mais après la difficulté du dépôt de plainte, c'est au chemin de la justice qu'elles sont confrontées. Un déroulement difficile et trop lent des procédures, les incertitudes de l'aboutissement et 2 renvois qui décalent les dates et rendent l'attente insupportable comme une nouvelle épreuve à traverser. C'est ce chemin difficile qui demande une ténacité et une confiance hors pair que nous suivons aux côtés d'Anastasia et Eloa. C'est, pour la 3e fois, la date prévue du jugement. Elles se préparent à une journée qui ne semble jamais arriver et Nora nous partage leurs attentes et leurs inquiétudes et son sentiment d'impuissance. Nous écoutons donc Renvoi et discuterons ensuite avec Enora sur son travail sur ce documentaire. Bonjour Enora, donc on va écouter ta nouvelle pièce et j'aimerais bien que tu te présentes rapidement aux auditrices.
Bien, je m'appelle Enora Giboire, Renvoi, c'est mon premier documentaire sonore. J'ai fait d'abord une licence de cinéma à Paris, qui m'a plutôt orientée au début vers la fiction. Et finalement, j'ai bifurqué vers le documentaire. Et donc, j'ai rejoint un master d'écriture et de réalisation documentaire à Angoulême, le CréaDoc, qui m'a permis de découvrir pour la première fois ce médium du documentaire sonore. Et donc, c'est là que j'ai pu réaliser la pièce que vous allez écouter.
Ok, donc on écoute Renvoi et puis on en parle après.
Pour moi, ici, il y a la préfecture. Préfecture. Et ici, il y a un peu des chemins. Genre, ici, il y a une route. Pourtant, j'y passe souvent, mais pour moi, ici, il y a une route. Et pour moi, le tribunal, il est là.
Des flammes, fais des flammes.
Je pense que vous donnez pas la convocation au greffier.
Vous donnez ça.
Voilà. Vous savez ce qui vous attend. Le choix qui
soit on passe maintenant, soit fuyez très vite.
24/01/2025 à 20h. Il est un peu en M, un peu méchant. M pour méchant. Ici, il y a des escaliers comme ça. Il n'y en a peut-être pas autant, mais ils sont durs à monter.
faites la cour, madame.
Et nous, on arrive comme ça, main dans la main.
Toute tremblante.
Voilà, il y a Eloi et il y a moi.
Et c'est très haut.
Moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, quand tu rentres, donc il y a le hall, il y a plein de portes partout. Il y a des gens qui vont un peu de partout. Et en fait, le plafond est très haut. Je sais même pas s'il y a un plafond, en fait.
Nous, la première fois qu'on est arrivé, il y a une sorte de poste d'accueil, mais il y avait personne. Où est-ce qu'on devait aller en fait? Où était la chambre 11? Parce qu'on savait pas. Et on a vu des gens rentrer et on a suivi le mouvement.
14 mai 2024. Je rentre avec vous. La salle s'installe. Les robes s'enfilent, les bancs se remplissent et nous, on s'y faufile. Vous allez vous signaler au greffier. Attester votre présence, une nouvelle fois. Puis on s'assoit. Entouré de sa femme et de son avocate, il vient silencieusement se glisser au dernier rang. Derrière vous, comme il l'a toujours fait. Anastasia, je prends ta main, que je serre fort. La sonnerie retentit. Le juge et ses assesseurs rentrent. Je les fixe, impressionnés. Et je ne vois même pas que le greffier m'ordonne de me lever. Vous, vous l'êtes, debout. C'est votre deuxième audience. Chacune rejoue. Et de là, on attend. Les heures qui défilent, les affaires de violences sexuelles qui s'empilent et les urgences qui n'arrêtent pas. Mais à 19h, vous êtes fixé. Le juge annonce le renvoi de votre dossier, faute de temps. 6 mois. Encore 6 mois d'attente. Et même s'il regrette cette décision, il ose cette phrase. Vous avez de la chance. Les délais normaux sont d'un an. Vous n'êtes pas les seuls. Une avocate s'énerve, sa cliente pleure. Ça se voit que c'est son premier renvoi. Vous réagissez pas pareil au second. Alors on se lève, et c'est le tilt.
Non. Mais t'inquiète, je fais ça avec toi. C'est bon?
Le fait de sortir du tribunal et tu sais pas vraiment comment réagir en fait.
Ça dure depuis 2020, le dépôt de plainte. Ça fait 5 ans. C'est épuisant de garder tout le temps ça dans un coin de sa tête. On en est un peu à un stade, je pense, où, s'il y a encore un renvoi, c'est un peu triste à dire, mais je vais lâcher l'affaire.
Renvoi.
Un documentaire sonore de Enora Giboire.
Une première fois quand je l'ai signalé au club.
Je regarde. Parce qu'il y a, en fait, il y a plein de papiers et je sais pas trop ce que c'est.
Une deuxième fois quand j'ai été convoquée au commissariat.
Avis, moi j'ai un avis à victime, toi t'as avis à...
Partie civile.
Une troisième fois au commissariat parce que l'affaire a changé de policier.
J'ai peut-être pas toutes les pages après.
Mais j'ai pas moi partie civile. Peut-être
bon bah
que...
voilà, on se complète.
Une fois à la psychologue.
Si tu fais pas la demande, si tu précises pas que tu te constitues partie civile, tu n'auras aucun dédommagement, même si la personne en face est condamnée.
Une nouvelle fois à l'avocate.
Et la convocation.
Tu reports.
Ouais.
Si on regarde,
Il y a mon nom nulle part.
Et après, moi, l'avocate m'a redemandé de faire un petit récapitulatif si j'étais OK.
Aucune autre convocation ne vous sera délivrée. Fait à Créteil, le greffier et sa signature.
Ils ne nous ont pas donné pour le report de cette année. On reprend la même que l'année dernière.
Ah oui, ils se sont dit...
Voilà, fait du...
Elle s'avoue, allez.
Pas de gaspillage de papier. Voilà.
Et après, encore une fois, à plusieurs personnes à l'extérieur... Quand il y a tout ça qui est arrivé au club, on nous a posé des questions.
Bonsoir.
Quand tu expliques aux proches que tu es convoqué au tribunal à telle date, bah forcément, ils te posent la question de pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est toi, tu es en qualité de quoi ? Victime ? Et donc oui, au moins une vingtaine de fois.
Donc je vais voir ma mère pour lui dire « Oui, tu te souviens de mon coach quand j'étais en moins de 13 ?» Et ma mère, en fait, a dit « Tu vas pas gâcher la vie d'un homme juste pour une main au cul. »
Moi, pour mes proches, quand j'en parle, je filtre les anecdotes, entre guillemets, les souvenirs que je peux avoir. Je sais qu'il y en a certains que je raconte et d'autres où... Non, ça, je vais pas le dire, par exemple, à mon père.
Le jour où il y avait la première audience...
La première audience, je leur en avais parlé, je les avais tenus au courant.
J'ai dit, bah oui, bah du coup, j'y vais, là, ma mère, elle a fait bon, bah... Avec un sourire un peu en mode moqueur, bah bon courage.
Et pour être très sincère, je m'attendais à ce qu'ils me demandent comment ça s'est passé ou quoi, et ça a pas été le cas.
Quand je suis rentrée de cette journée, rien du tout. On m'a même pas posé une question.
Il n'imaginait pas qu'un coach, un entraîneur puisse tenir des propos comme ça parce que aussi, il nous voyait comme des enfants.
C'est même pas pour eux, je sais pas, c'est peut-être qu'ils sont dans un déni ou quoi. Parce qu'ils en ont juste rien à foutre, c'est possible aussi.
De par son œil de père, c'était impensable. Donc oui, ça a été occulté.
Ils m'en ont jamais reparlé. Pour eux, ça n'existe pas, genre ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Eloi et moi, on est deux. On était le meilleur soutien pour l'une et pour l'autre, en fait.
Avant l'entraînement, en fait, on arrivait tout le temps en retard. Et en fait, on marchait. Et les 10 derniers mètres, on se disait, OK, là, on court. Comme ça, on a l'air essoufflé. Et genre, plein de trucs comme ça, tu vois. Où vraiment, c'est là où on a vraiment créé du lien et on est devenus très, très amis.
Enfin, est-ce que ça te dérange, toi, d'être coachée par un homme ?
Je pense que comme j'ai été très habituée à être coachée par un homme, maintenant, non. Je pense que ça me dérange pas dans la mesure où il n'impose pas sa virilité à moi. J'ai toujours dit ce que je pensais et ça me dérange pas, surtout. Bon, si je me dis si c'est un homme, si c'est pour le remettre en place et qu'ils se disent « vas-y, je vais pas la piétiner », j'ai aucune pitié, quoi.
Tu sais, je t'avais parlé de l'affaire dans mon club, là, actuellement. Mmh. C'est pas hier, Lucie, elle me dit, mais tu sais, en gros, elle, elle est en contact avec celle qui travaille à la Ligue, okay. Et qui, en gros, s'occupe de l'intégrité, signalement et tout. Et en gros, la dame, elle regarde et en fait, elle ne trouve pas... Tu sais, quand tu tapes le nom du club et tout, normalement, t'as tout l'historique de tout signalement ou tout ce qu'il y a eu. Elle ne trouve rien. C'est comme s'ils n'ont jamais fait de signalement.
Et sur cette liste, du coup, vous voyez le vôtre ?
Ah non, nous, il n'y a jamais eu de signalement. Nous, il n'y a jamais eu de signalement fait au-dessus.
Ah ouais ? Ils l'ont juste viré ?
Ouais, ils ont juste viré. Rien du tout.
Le samedi, c'était trop bien, la manif.
C'est vrai ?
Ouais. Quand je suis arrivée, du coup, j'étais avec tous mes micros.
Et là où il y a des gens à qui ça fait un peu peur, il y en a aussi, ils se disent « Oh, c'est la radio, faut absolument que je passe. » Dont un homme.
D'accord.
Qui est arrivé. Et genre, en gros, il comprenait pas ce qui se passait dans la rue. Il savait pas, mais... Qu'est-ce que c'est que cette foule? Qu'est-ce qui se passe?
C'est une manifestation, monsieur.
Et du coup, au début, je me dis, ok, je vais faire un petit peu de pédagogie. Je commence à expliquer les pourquoi du comment, les violences sexuelles, tout ça. Et à un moment, je prononce le mot patriarcat.
Oh là là, mais ça va pas.
Et il me dit, c'est quoi? Nous, il y a des trucs qui clignotent chez des gens où ça clignote pas du tout, quoi. Où c'est très loin de clignoter.
Dis bien, ouais. C'est Lucie, elle m'a dit ça la dernière fois. Elle m'a dit, mais est-ce qu'un jour tu vas faire autre chose que genre des trucs de féminisme et tout? Je fais, non. Jusqu'à ma mort.
Je m'enferme encore dans des schémas, enfin en tout cas on m'a dit que, et c'est vrai, mais que ma colère était retenue, mais c'était ça qui faisait la force de ce que j'écrivais et de ce que je racontais. Mais moi je l'ai compris comme, fais attention, va pas plus fort, parce que si tu vas plus fort, tu seras plus audible. Et en fait ça pose tellement des questions sur ce qui est accepté, et en fait pourquoi si j'allais plus fort je serais plus audible, et ça me saoule en fait que encore c'est à eux de décider de comment doit être notre colère et comment elle doit s'exprimer, parce que c'est la nôtre et ce sera jamais que la nôtre, et que la manière dont ça sort c'est tellement pas la manière dont on le ressent, quoi.
Elle lâche pas, je vais pas lâcher. On va pas abandonner.
Je sais pas comment je vais m'habiller. J'ai la flemme de même penser à ça, en fait. Ça me saoule. Sinon, je me suis dit, demain, je m'habille en... J'ai un... Comment on appelle ça? Un col roulé, manche courte, rouge.
Et rouge, ça ferait quoi?
Bah, rouge, le truc, tu vois, ça, en vrai, ça fait un peu... Enfin... C'est un peu une couleur chaude. Après, c'est une couleur qui me va très bien au teint, mais... mais ça fait un peu... je pense, dans l'imaginaire, un peu... chaudasse, j'en sais rien. Sinon, je mets un col roulé noir. Ça fait un peu austère, je trouve. En fait, je veux quand même paraître belle, tu vois. Mais je sais pas, genre, faut penser à ce que les gens pourraient penser. En fait, mon pantalon, je sais pas, est-ce que c'est... Tu trouves ça bizarre de mettre un jean? Ça fait pas trop décontracté. Chaussures, je pense que je vais mettre mes bottes. Je vais pas mettre des grands talons, parce que si je mets des grands talons et qu'on va passer 6 heures là-bas pour qu'on nous dise rentrez chez votre mère. Mais ouais. Oui, il y a des petits talons. Mais après, ça veut dire que quand je vais marcher dans la salle, ça va faire... C'est comme quand on se prépare pour un entretien d'embauche. Faut genre donner un peu... la version de soi qui correspond aux attentes, quoi. Ouais, donc c'est ce que je vais faire. C'est Sur mes lèvres, je pense que je vais faire quelque chose d'assez léger. Je vais pas faire un rouge à lèvres rouges. Il faut que j'ai un regard quand même, comment dire, captivant, qu'on me regarde dans les yeux, tu vois. Mais il faut pas que j'en fasse trop, parce que sinon on va trop s'attarder sur mon maquillage et pas sur ce que je raconte. Je crois que l'année dernière, après l'année dernière c'était en mai. Du coup je me maquille pas pareil en hiver qu'en été, mais enfin qu'en printemps. Mais faire un truc quand même assez entre guillemets naturel, quand même qui montre un peu de maturité, tu vois ce que je veux dire. J'aimerais trop venir avec un mascara bleu, ce serait génial. Mais je vais pas le faire. J'ai l'impression quand je mets du mascara bleu et que je me fais un eyeliner bleu, j'ai l'impression d'être la reine du monde. T'es stressée?
Ouais.
C'est vrai?
Pas toi?
Bon, je sais pas. En vrai, si tout à l'heure j'ai commencé à y penser, je me disais, ah ouais, c'est stressant et tout. En fait, c'est surtout de se dire, bon, si on vient renvoie, je sais, tu vois, ce que ça fait. Mais si on fait, on le fait, enfin, tu vois, genre, enfin, pour de vrai, bon, ça serait bien, mais d'un autre côté, là, c'est vraiment, tu sais pas. Et c'est ça qui est très stressant. Se dire, je sais pas, qu'on va être scruté et tout. Je crois que je ressens un peu une culpabilité parce que dans le sens où je m'en fous un peu, tu vois. Et du coup, ça fait un peu en mode... je sais pas, un peu ingratitude ou quoi. Je sais pas trop quel mot dire, mais... Genre de pas ressentir les émotions qu'on devrait ressentir, tu vois, genre de... Oh, et tout, le procès. En fait, demain, pour moi, c'est juste une journée, vas-y. C'est comme quand je suis allée à ma journée d'appel. C'est un truc que tu dois faire, mais t'as pas envie, tu vois. C'est un peu le même truc, genre.
Et pourquoi tu culpabilises de te sentir comme ça?
Bah, je sais pas, je me dis... Enfin, déjà, je pense qu'il y a ce truc que, ouais, vas-y, c'est pas un peu... C'est pas le comportement d'une victime un peu parfaite, tu vois. Mais bon, ça, en vrai. Bah, je crois que je suis tellement dans... je suis tellement dans une phase où je me dis j'ai rien à prouver à personne. Genre, j'ai proche d'en prouver quoi que ce soit.
Bon. Bah, demain, tu vas devoir prouver quelque chose à quelqu'un, quoi.
Bah, un peu, hein. Je vais voir son avocate. Peut-être, c'est sûr, elle va poser des questions.
T'as peur d'elle?
Non, j'ai pas peur d'elle, mais... Genre, j'appréhende un peu ces questions parce que... Je crois que je suis un peu en colère en ce moment. C'est aussi peut-être une manière pour moi de comment dire, de combattre le stress. Genre en étant en colère contre la situation, comme ça je stresse pas. Ça me permet de pas être passive et juste de d'envoyer chier ce qui se passe, quoi. Mais demain, je pense que je vais faire un eyeliner brutal.
Aller par là.
Bah moi je crois, hein. Je me souviens quand j'ai passé par là.
Oui, il y a un panneau palais de justice en haut là. Voilà.
Ah bah super. Ah bah il est là juste devant.
Ah oui. Ah c'est mon avocate. Oh, bonjour.
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 Bonjour. C'était vous qui m'aviez appelé
pour... Oui, mais genre, je sais pas, enfin je reste en dehors.
Ah ouais, ok, ça marche, ouais. Parce que vous n'avez pas eu le temps.
Non, son avocate a refusé.
Ok, ça marche. Ok, bah à tout à l'heure.
À tout, oui, à l'heure.
À tout à l'heure. Mais t'arrives dans combien de temps? Ok, mais t'inquiète, en vrai ça va pas commencer à l'heure, quoi, c'est juste parce que là on est dehors. C'est juste ça. Ok. Dac, à toutes. Bon, on fait la queue.
Ouais, on va rentrer, je pense.
Ok. Tu nous dis?
Ouais, ça marche.
À toutes.
À toutes.
Janvier 2025, 13h37. On est au dernier rang. Éloi, Anastasia, sa copine Lucie et moi. Il est 4 ans devant. La salle est petite, bientôt remplie, mais de lui, elle se sent du plus possible écartée. Le tribunal s'ouvre et les renvois commencent. Des numéros de dossier sont lancés et on stresse à mesure que les bancs se vident. 4 sont prononcés. Elles n'en font pas partie. Que cette fois-ci, ça allait se passer, comment vous l'avez pris ?
Bah, c'était joyeux.
On était contents. Soulagés.
Ouais.
Mais c'était pas encore fini, parce que si des dossiers prenaient du temps, on passait peut-être pas tout de suite. Ouais. Ou c'était surtout ça, donc on était vraiment encore en attente. Et quand on a vu que c'était que des femmes, donc la juge, la procureure, etc., on s'est dit que on allait certainement ne pas avoir de questions pièges ou ce genre de choses que moi je redoutais un peu.
15h24. C'est à elle. Dossier numéro 10. Elle se lève, lui aussi. Les faits sont requalifiés en harcèlement sexuel sur mineurs de moins de 15 ans et par personne ayant autorité. Puis, la juge lit l'expertise psychologique de Anastasia et Eloa. Celle-ci souligne leurs 8 jours d'incapacité de travail et estime, pour elle, le retentissement psychologique de ces violences à 2,5 sur 7. Toute tendance mythomaniaque leur est écartée. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre la juge raconter les faits comme ça ?
Je pense qu'avec le temps, on a pris l'habitude de nous le raconter. Et de l'entendre de quelqu'un d'extérieur, ça a été... Pour moi, ça a été étrange.
On se sent peut-être pas forcément, enfin, entre guillemets, concerné. Enfin, tu vois, c'est comme si c'est choquant à entendre. Et après, tu te dis, ah mais oui, en fait, ça parle de nous, là.
Moi, je crois que le chiffre qui m'avait le plus troublé, enfin, je l'ai écrit, mais c'est le 2,5 sur 7.
Mais en fait, je me dis, je sais même pas à quoi ça correspond.
Oui, moi non plus.
Genre, qu'est-ce que ça, enfin, ça veut dire quoi ? Comment t'évalues ça ?
Quel est le barème ? Comment est-ce qu'elle en est arrivée à 2,5 ?
Et surtout, ouais, 2,5, genre, il y a un 0,5 qui s'est perdu là, genre vraiment. Et puis en vrai, qu'est-ce que, enfin, ça veut dire quoi, genre, 2,5, est-ce que c'est beaucoup ? Genre, moi, on l'avait pas dit, ça.
Non, moi non plus.
15h38. Il nie. Témoin ou pas. J'ai envie de toi, pas dit. Rejoins-moi dans le vestiaire, pas dit. Tu me hantes comme un fantôme, comme un fantasme, pas dit. Le harcèlement, c'est quoi ? L'interroge la juge. Le silence est long et ses mots semblent jetés comme au hasard. Pour vous, elle mente ?
Vous saviez qu'il allait réagir comme ça ?
On le savait. Qu'il allait nier, parce que quand il a été auditionné, il a nié. Dans les échanges qu'il a pu avoir avec son avocate, il a nié. Donc on s'y attendait. On avait souvenir de quelqu'un qui s'exprimait bien. Et en fait, on s'est dit non, il est juste... Il se mélangeait les pinceaux, il bafouillait, il n'arrivait pas à articuler, il n'avait aucun propos qui était cohérent, il ne savait pas étayer son propos, s'expliquer. Et en fait, on s'est rendu compte que il était juste nul.
Il a essayé d'être plus intelligent que les juges. Il a essayé de se mettre en position un peu au-dessus. Enfin,
oui,
au-dessus,
les prendre de haut.
Mais ouais. Il n'a pas réussi. Et en fait, c'est ça, où je pense, qu'il a rendu encore plus ridicule. C'est qu'en fait, c'est facile d'avoir de l'autorité sur des enfants de 13 ans. Mais en fait, quand tu es dans une salle avec des juges qui sont là pour te juger, là, tout de suite, il peut moins faire le show.
Comment tu t'es sentie ce moment de monter à la barre ?
Très nerveuse, très stressée. Je pense que tout le stress que j'accumulais de cette préparation, etc., ça devenait concret au moment où on m'invite à parler. Et je le sentais physiquement, ma jambe tremblait, j'avais la voix qui tremblait. J'étais pas à l'aise sur le moment. Et dans leur formulation de questions et comment elles ont tourné leurs questions pour s'adresser à moi, elles m'ont mise un peu à l'aise et ça a été un peu mieux après, mais ça m'a semblé interminable. Ce moment où j'étais debout à parler, dans ma tête, il a duré une éternité.
Ton cerveau, il est en ébullition. Genre, j'avais un truc où, en fait, t'as envie de dire plein de choses, et en même temps, t'es paniqué de dire plein de choses, et en fait, tu comprends même pas en vrai les phrases que tu dis.
C'était la seule fois qu'on nous donnait la parole. et que c'était un peu la dernière fois qu'on prendrait la parole aussi là-dessus. Mm. Donc on s'est dit, c'est maintenant ou jamais.
16h33. La procureure prononce ses réquisitions. Et au bout de 20 minutes pendant lesquelles on se tient tout attentive, elle demande à la juge de le déclarer coupable. Elle finit par cette phrase. Que ce soit il y a 30 ans ou aujourd'hui, les faits ne sont pas acceptés. La différence, c'est qu'aujourd'hui les victimes osent parler et dénoncer.
Tout le moment où elle a pris la parole, qui était tellement long et où elle revenait sur tous les points, que ce soit tout ce qu'on avait dit pendant nos auditions ou ce qu'on avait dit là à la barre, elle était très détaillée sur tout ce qu'elle disait et elle l'enchaînait. Et on s'est senti un peu soulagés.
Ah ouais, de ouf.
Quand elle a demandé à le déclarer coupable, on s'est dit, c'est déjà une première victoire.
Madame Zaza, il faut savoir quoi faire. Il faut savoir quoi faire.
J'enregistre.
Hein ?
J'enregistre. Merci.
Ah, tu veux quoi faire, madame ? C'est pour la grève ?
Ouais, c'est pour la grève féministe.
Hein ?
Pour la grève féministe.
C'est quoi féministe ? C'est quoi ça ? Pour les femmes violées ? Les femmes violées ?
Non. Oui, pour lutter contre le patriarcat.
Comment ?
Contre le patriarcat.
C'est quoi ça ?
Elle encadre son plaidoyer par homme de 67 ans, français, casier judiciaire vierge, avec ses enfants, ses petits-enfants. Donc elle commence par ça et elle finit par il a son âge, il a sa vie, il a ses enfants. Mais d'accord, vraiment, elle encadre tous ces faits par oh, c'est un vieux monsieur, oui. C'est pas trop grave.
Oui, en mode c'est un petit monsieur mignon, gentil. Oui, c'est la victime et il se voit accusé par des jeunes qui veulent ses sous.
Wow, mais n'importe quoi. C'était une autre époque. C'était une autre époque.
Mon client est un homme de 67 ans, français, au casier judiciaire vierge.
Il est père de 5 enfants et aussi grand-père. Les faits sont anciens. La loi a changé. Et la société aussi.
Il y a inévitablement un fossé de génération.
Avec le mouvement MeToo, ces jeunes femmes ont traduit ce qu'avait pu dire monsieur. Alors c'est vraisemblablement un progrès. Mais il s'ajoute à cela les réseaux sociaux et le bourrage de crâne. On arrive à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
J'en viens à me demander moi-même si je peux appeler mon petit-fils mon chéri.
C'était une autre époque, une autre éducation, et il faut prendre ça en considération.
Il a son âge, il a sa vie, il a ses enfants.
Même si c'était n'importe quoi ce qu'il racontait, je me suis dit, à tout moment, genre, ça les convainc.
Moi, j'étais très énervée parce qu'elle disait absolument n'importe quoi. Et je savais que derrière, on pourrait pas prendre la parole.
Le 24 janvier, 19h41. Est-ce que le tribunal va brûler dans 20 minutes ?
Allô, ça va ?
Ouais,
on est sorti. On a eu le délibéré. Il a pris 12 mois de prison avec sursis. Donc c'est pendant 5 ans. Interdiction d'être en contact avec des mineurs. Et on a 1500 chacune. Voilà, donc il a 10 jours pour faire appel. Et après les 10 jours, on sera tranquille et les avocats ils vont prendre contact pour procéder au paiement et tout.
Bon, bah c'est bien, allez fêter ça.
Champagne, champagne.
Même si vous attendez 10 jours, ça vaut déjà le coup d'aller.
Oui, c'est clair.
C'est ça la musique de la victoire ?
Bah ouais, hein.
It's raining men ! Yeah !
Ça tombe bien, tu as dit.
Alléluia, oui.
C'est un signe, les gars.
J'espère qu'il va pleurer.
Mais à un moment, il a enlevé ses lunettes.
Et chiale !
Et crève, connard !
Mais c'est bien qu'il y ait un truc interdiction sur mineur, parce que là, actuellement, la seule chose qui l'empêchait de juste reprendre une licence, c'était lui-même.
Oui.
Enfin, pour entraîner des jeunes.
Là, c'est voilà. Acté au moins.
Là, c'est interdit. Et là, il fait une faute, il va rentrer en prison. Et son stage, là, qu'il doit payer de sa poche.
J'aimerais bien le voir.
En plus, il n'y en a pas dans le Val-de-Marne, donc il faut qu'il aille loin.
Chef. Il faut qu'il fasse des recherches tout
plus.
127 euros.
Oui, ah ça, oui. J'ai pas compris ce que c'était.
C'est les frais administratifs liés à l'affaire, quoi.
Okay. Parce que t'es coupable, du coup, tu payes.
Oui. Pour le tribunal, ouais.
Parce que t'as. Comment tu t'as pas porté dommage à la France, tu vois. Au citoyen français.
Oui, bah, parce que t'as pris le temps ou pour les gens qui étaient là.
Mais le moins 20%, ça me fume.
Ah oui.
C'est d'abord une réduction de moi.
Mais en parallèle, j'avais quand même ce truc de. Pas une culpabilité, mais j'étais en mode. Comme là, je me dis ça va, c'était peut-être pas si grave, genre.
Comme les amendes. Parce que maintenant, c'est ancré en nous, c'est ce qu'on a vécu.
Ouais.
Mais je pense que si demain, t'as n'importe qui te raconte une histoire semblable, tu lui dis, mais il faut faire quelque chose.
On n'est pas des affabulatrices.
À l'époque où je l'ai signalé, j'ai ma première petite sœur qui avait 13 ans. Donc pile dans l'âge. Et aujourd'hui, j'ai ma deuxième petite sœur qui a 12 ans. Et vraiment, je me suis transposée au moment où j'ai signalé en ma première petite sœur. Et aujourd'hui, je me vois aussi en ma deuxième petite sœur et je me dis, c'est pour elle, c'est pour toutes les autres jeunes filles qui osent pas en parler peut-être à l'instant et c'est pas médiatisé, c'est pas, on n'en parle pas plus que ça non plus autour de nous, à des jeunes filles.
Merci beaucoup.
Mais ça joue. Ça compte.
Merci beaucoup. Dormez bien.
Toi aussi.
Reposez-vous bien.
Toi aussi. Rêve de nous.
Bah oui. De toi, à la barre droite.
Si quelqu'un s'engage dans des procédures judiciaires, il faut être patiente. Il faut s'accrocher, quoi.
Un documentaire sonore réalisé en 2025 dans le cadre du Master 1, écriture et réalisation documentaire du CréaDoc. Et avec le soutien du Polymage Magellis et de l'Université de Poitiers. Au mixage, Aïna Bouaziz et Nora Giboire. Un merci infini à Anastasia et Loa et à toutes celles qui se battent.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
La première question que j'avais envie de te poser, c'est comment tu as choisi ce sujet ou qui s'est imposé à toi? Comment tu as eu envie de te saisir de ce sujet?
Eh ben, ce documentaire, il est parti. Je ne pensais pas que ça allait être un documentaire au départ. Parce que l'une des personnes concernées que je suis, c'est une amie à moi. Et j'ai été amenée à être à une des audiences, à la deuxième audience qu'elles ont dû vivre. Et c'est là qu'elles ont subi leur deuxième renvoi. Et moi, j'ai été plongée dans ce monde judiciaire, face à cette réalité d'une justice complètement submergée. Et je l'ai vécu de l'extérieur, mais quand même assez violemment. J'ai trouvé que c'était très maltraitant pour elle. Et de là, j'ai eu envie de... Avec leur envie aussi, enfin, ça a été une envie commune, mais de documenter en fait ce qu'elles traversaient depuis 5 ans, parce que ça faisait 5 ans qu'elles avaient déposé plainte. Et comment il y avait des audiences qui étaient posées, mais en fait, elles n'avaient pas lieu parce qu'il y avait des affaires qui se rajoutaient au dernier moment, parce que certaines duraient plus longtemps que prévu, et du coup, comment finalement, elles n'apparaissaient pas prioritaires, et c'était sans cesse amené à une date ultérieure, et comment elles rentraient dans un quotidien de pas savoir quand est-ce que cette histoire allait se terminer, quand est-ce qu'elles allaient pouvoir tourner la page, même si on ne tourne jamais vraiment la page, mais c'était quelque chose qui... Elles y pensaient quotidiennement et elles ne savaient pas comment ça allait pouvoir s'arrêter. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dedans. C'était à la fois remplie d'émotions, de colère, de justice. Il fallait que je sois avec elles. Et comment on s'est aussi donné la force toutes les trois, parce qu'il y avait vraiment la question qui se posait pour elle de est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête, On commence à être à bout de force et elles avaient la chance d'être elles, enfin la chance d'un certain égard d'être toutes les deux et donc de pouvoir déjà quand l'une perdait un peu confiance et espoir que l'autre la rattrape et réciproquement et le fait que je sois arrivée aussi avec ce documentaire, ça les a permis aussi, ça nous a permis de nous donner un autre élan et elles se sont... Elles étaient heureuses de pouvoir avoir le micro et de pouvoir partager ce qu'elles ressentaient, qui pouvait être aussi parfois contradictoire parce qu'on peut d'un coup avoir très envie de continuer, après se sentir complètement dépassée, avoir envie d'arrêter, enfin d'essayer de documenter tous ces sentiments qui les traversaient et qui pouvaient aussi, moi, d'un point de vue extérieur, me traverser. Et dans le script du documentaire, je ne savais pas vraiment où j'allais parce que je ne savais pas l'issue que leur histoire allait avoir. J'avais un an pour faire ce documentaire. Il y avait une audience qui était prévue en janvier. Mais on ne savait pas s'il y allait avoir encore un renvoi ou si ça allait être vraiment jugé. Et c'est vrai que ce n'est pas vraiment une question qui m'a beaucoup embêtée. Moi, j'étais vraiment... Peu importe ce qui allait se passer, pour moi, ça allait raconter quelque chose dans les deux cas. Et dans la construction avec Anastasia et Eloi, à la base, Anastasia, c'est une de mes très proches amies et Eloi, je ne la connaissais pas vraiment. Et du coup, c'est posé un peu la question de ces deux personnages. Et c'est vrai qu'au début, comme j'avais déjà une relation d'intimité avec Anastasia, de plus facilement pouvoir échanger avec elle sur ce qu'elle traversait. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible d'exclure Eloi de ce documentaire parce qu'elles étaient toutes les deux et ça aurait été complètement insensé de briser leur duo. Et donc, c'est là qu'on a commencé à faire des échanges toutes les trois et de pouvoir les avoir aussi toutes les deux en relation et à les remettre aussi en lien ensemble parce que voilà, elles traversaient ça ensemble et elles pouvaient se répondre et c'était des moments aussi pour elles de se partager ce qu'elles ressentaient et j'ai cherché beaucoup à mêler dans la forme à la fois des moments d'intimité, des moments de discussion, des moments aussi de... Je me suis beaucoup posé la question de ma place à moi parce que je ne traversais pas la même chose qu'elle. Je ne pouvais pas... Je pouvais avoir toute l'envie de les comprendre, mais je ne pouvais pas intimement ressentir ce qu'elle traversait. Et du coup, j'ai essayé de faire ressentir... De me placer au bon endroit et que... Elles, leur lutte, c'était dans ce processus judiciaire-là et que moi, j'essayais d'apporter un peu ce regard extérieur et ma manière à moi de lutter qui est majoritairement dans les manifestations et de faire un peu d'ouvrir sur le monde et de par moments aussi un peu faire éclater ou jaillir des sentiments ou des choses qui, moi, me traversaient sans pour autant prendre leur place. Et donc, c'est très important pour moi de faire entendre ces chants de manif, ces chants féministes qui venaient comme ça un petit peu ponctuer l'histoire et dans la forme aussi, voilà, de traverser des situations, des moments d'entretien, des moments plus de préparation. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui se jouaient avec des textures complètement différentes, des moments beaucoup plus rageux et vifs et des moments plus intimes et introspectifs. Et en fait, pour moi, tout ça collait au quotidien qu'elle traversait. Et donc, il fallait absolument que dans la forme et dans l'écoute, on ressent toutes ces fluctuations. C'était hyper important pour coller vraiment à leur quotidien, à elles. Et bien sûr, j'ai eu certaines contraintes, mais qui m'ont fait inventer un nouveau dispositif. Mais j'avais fait des démarches pour enregistrer le procès, qui m'ont été donc refusées par l'avocate de l'accusé. Et du coup, c'est là que m'est venue aussi l'idée de... Et c'est là où moi, j'apparais dans le documentaire, mais par cette voix off, un petit peu de retranscription des événements pour les auditeuristes et placer ce contexte et ces mots. Parce que pour moi, c'était important de retranscrire les paroles qui sont dites dans un tribunal, qui font aussi état de où on en est dans la société. Et par exemple, sur les paroles de l'avocate de l'accusé, qui pour moi, c'était très violent d'entendre ça. J'avais un certain détachement parce que j'étais en train d'écrire. Et en fait, on en a ri, mais c'est profondément... C'est vraiment triste d'en être là. Et c'est très violent pour les personnes qui se prennent ça en face. Et j'étais vraiment sous le choc que ça puisse être encore dit aujourd'hui et qu'il y ait une surculpabilisation encore des victimes et de renversement. Enfin ouais, ça nous avait vraiment étonnés. Et du coup, j'avais essayé de renverser un peu ça en le faisant interpréter avec des tons presque un peu ironiques par des manifestantes à une marche féministe pour essayer de, par leurs mots, essayer de les tourner en ridicule et en fait se les réapproprier et les faire éclater parce qu'ils tombent aussitôt. En fait, c'est tellement pauvre, c'est tellement c'est voilà par quel par on peut en rire en fait parce que c'est tellement improbable de dire ça encore et plus personne n'y croit. Enfin, il y en a qui y croient encore malheureusement, mais voilà, d'essayer par différents dispositifs de faire varier ces de faire varier les émotions et que ce soit ça colle en fait à ce qu'elle traversait.
Justement, juste une petite question ponctuelle, mais dans la manif, il y a un personnage aussi, un monsieur que vous interviewez au début, je crois, et puis ça revient un peu après son discours. Et comment cette espèce de contrepoint justement complètement un peu absurde et complètement surréaliste quoi au milieu de toute cette histoire. Comment c'est intervenu, comment c'est venu ce contrepoint?
Eh ben, j'étais en manif, c'était à tout début d'une manif, et donc j'étais en train de sortir tous mes micros, et il y avait cet homme qui est venu vers moi et qui ne savait pas du tout ce qui était en train de se passer. Et du coup, on a commencé à interagir et moi, à essayer de lui expliquer. Et c'est vrai qu'il ne savait pas ce qui se passait. Il y avait des termes qu'il ne connaissait même pas, en l'occurrence, le patriarcat. Et ça me paraissait important. Enfin, j'avais envie de le mettre pour rappeler, faire un peu des petites... Des petites injections de voilà, il y a des choses qui sont pas encore acquises pour certaines personnes, ce n'est pas encore une question, c'est pas quelque chose auquel ils s'intéressent, et je pense que ça va aussi de pair avec tout le moment de la retranscription de la plaidoirie de l'avocate. Voilà, on en est encore là, c'est encore là un peu notre socle de la société, et tout n'est pas encore acquis, et des fois on part encore de très très loin. Et donc ça me paraissait, ça me faisait un peu rire et en même temps, enfin c'est en rire ou en pleurer, mais ça me paraissait important, j'avais envie de le mettre.
Et y a tout un travail dans ta pièce, je trouve, sur, alors je disais un peu l'intime et le public, hein, et du coup sur les espaces, vraiment de donner à entendre justement ces moments où vous êtes toutes les trois et des moments où bah, il y a une exposition au public et à l'extérieur. Et puis du coup aussi sur la notion de rythme, parce qu'effectivement, on sent qu'on les accompagne vraiment dans ce temps qu'elles ont à vivre. Mais en même temps, il y a vraiment un rythme qui nous permet de... Bah justement d'être à leur côté avec le temps qui se distend entre les renvois justement et puis le temps qui par moment devient très le présent qui se déroule, quoi. Et comment tu as pu intégrer ces deux aspects, donc à la fois l'espace et à la fois un rythme qui nous permet d'être vraiment à leur côté?
Je voulais que tout se traverse et tout se rejoigne. Enfin, pour moi, je n'imaginais pas raconter que leur histoire sans l'implanter dans la société dans laquelle on est, ou raconter cette histoire du prisme de la société sans... Enfin, c'était important pour moi de replacer aussi cet hors-champ qui vit hors leur histoire, et de placer aussi les espaces. À un moment, j'ai vraiment cherché à faire du tribunal un personnage, de l'entendre, de placer aussi les espaces dans lesquels on pouvait être. Des fois, c'était des endroits assez neutres chez elle, où le lieu ne fait pas forcément de son, en tout cas signifiant. Mais que ça pouvait être aussi quand on était en extérieur en train de se balader et on entend, voilà, la vie autour, que ce soit dans le métro. En fait, il fallait que, à la fois pour me permettre de créer un rythme dans le montage, et à la fois parce que je voulais surtout pas séparer les deux, parce que pas en faire quelque chose hors sol, en fait, ça fait partie d'un quotidien, et il fallait que cette vie-là s'entende au son, et du coup il fallait absolument les imbriquer ensemble.
Comment elles ont réagi en écoutant la pièce?
Eh bien, Anastasia, c'était assez émouvant, parce que elle m'a dit qu'elle l'a écouté 3 fois d'affilée et ça l'avait beaucoup émue. Elle était très fière de nous. Et elle m'a dit quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, c'est que ce documentaire les avait permis d'aller au bout de la démarche judiciaire. Que sans lui, elles auraient sans doute arrêté. Et donc ça m'a beaucoup touchée. Et c'est là que j'ai vraiment vu le sens de faire ce genre de projet. Enfin là, ça prenait vraiment tout son sens. Et c'était assez émouvant parce que aussi l'ami d'Anastasia qui travaille dans le hand a commencé, m'a proposé à ce que ce documentaire soit écouté dans des formations de futurs entraîneurs et entraîneuses. Et du coup, enfin voilà, il y a un peu plein de choses qui s'en sont découlées, et où d'un coup j'étais un peu dans un moment dans ma tête de à quoi ça sert de faire du documentaire. Est-ce que c'est pas quelque chose pour par qui ça va être écouté? Est-ce que c'est pas juste un entre-soi? Et d'un coup, savoir que j'avais pu servir, enfin que ensemble on avait pu servir à ça, c'était très très gratifiant. Et Loa ne l'a pas encore écouté, mais j'ai hâte qu'elle qu'elle me donne ses retours.
Donc, il continue à vivre, hein, non seulement à la radio, sur Radio Campus Paris, mais aussi dans d'autres cercles que ça peut effectivement éclairer sur ce type de démarche, quoi.
Bah oui, j'ai très envie là de faire des diffusions dans des associations féministes, que ce soit la Maison des Femmes, au Planning Familial, ou aussi dans des structures plus spécialisées dans la justice. Enfin, pour moi, l'une des envies aussi en faisant ce documentaire, c'était pour donner des clés de compréhension et d'action pour des femmes qui pourraient être dans cette situation ou être amenées à l'être, parce que je trouvais que ça peut donner un éclairage à la fois un peu plus administratif sur la procédure, mais aussi peut-être trouver écho dans des choses qu'on peut ressentir intimement et qu'on a l'impression d'être la seule, et d'un coup de savoir que c'est quelque chose qui peut être partagé et que c'est normal aussi d'être traversé par des émotions complètement contradictoires. Enfin, je sais qu'on m'a beaucoup... on m'avait pointé à un moment dans la pièce, il y a Eloa qui dit « crève connard » et que ça pouvait venir... comme si d'un coup on sortait et on faisait un pas de côté, et en fait pour moi on ressent tellement de choses contradictoires, et d'un coup, on a des poussées qui peuvent s'exprimer comme ça, autant que ça peut s'exprimer par de la persévérance. Et en fait, tout ça, c'est un bouillon intérieur avec lequel on est quotidiennement en train d'essayer de... en train d'essayer de comprendre et de gérer, mais tout est légitime. Ce qui est pas légitime, enfin ce qui est injuste, c'est que c'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on traverse quand on vit des violences. Et en fait, après, on compose comme on peut. Et oui, on est traversé par plein de choses qui peuvent être complètement contradictoires, mais on a le droit de ressentir tout ça, et c'est normal de le ressentir. Et faut réussir à composer avec, et quelque chose ne vaut pas plus que l'autre. Et du coup, c'était pour moi important aussi de faire entendre de leur part des moments où elles sont très calmes à des moments où elles ont envie de faire brûler le tribunal. Et parce que c'est ce qu'elles traversent, et il fallait que dans la pièce, ça s'entende.
Ok, ben écoute, ça s'entend à mon sens très bien. Et puis j'espère que la pièce va continuer à vivre, mais j'ai pas beaucoup d'inquiétude. Je pense qu'elle sera entendue par beaucoup de monde. Et pour finir cet entretien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des nouveaux projets sur lesquels tu travailles ou sur lesquels tu envisages de travailler?
Et ben là, en ce moment, je suis beaucoup occupée à... Avant le Créadoc, du coup, pour ma licence de cinéma, on avait fait un film ensemble avec Anastasia qui s'appelle En ces lieux, et dans lequel nous deux, avec deux autres amis, on témoignait de violences sexuelles qu'on avait pu vivre et qu'on racontait par les prismes des lieux dans lesquels ça s'était passé. Et donc là, on est en train d'essayer d'accompagner le film qui a eu... Là, dernièrement, le prix du meilleur documentaire à Trouville, et qui vient d'être acheté par France Télévisions. Donc voilà, on est en train d'essayer de faire vivre ce film, de donner de l'écho à nos voix. Mais c'est vrai que d'enchaîner ce film-là et l'année dernière avec Renvoi, c'est aussi pour moi assez intense de travailler ces questions-là de violences sexuelles pour lesquelles, enfin, je suis... moi-même concernée. Et donc cette année, je commence un travail, un film sur les élections législatives anticipées et la dissolution que notre pays a traversée il y a 1 an et demi. Donc voilà, pour essayer de raconter cette jeunesse qui se mobilise, qui combat ce gouvernement et l'extrême droite. Et ça va m'occuper ces prochains mois.
Ok, donc prévision de sortie à la fin du Créadoc,
C'est
c'est
ça.
ça?
Et pour l'instant, je n'ai pas encore de titre. J'ai en tête Passer l'orage, mais je ne sais pas si ce sera le titre définitif de ce nouveau film.
Ok, ben on va suivre ça. Merci beaucoup, Enora, de cet échange.
Avec
Et
grand
puis,
plaisir, merci.
à bientôt. Au
À
revoir.
bientôt, au revoir.
Voilà, c'est fini pour ce soir. Toutes les informations sont sur la page de l'émission sur le site radiocampusparis.org. Vous pourrez réécouter cette émission mardi à midi sur Radio Campus ou à partir de mercredi sur toutes vos plateformes de podcast. La semaine prochaine, c'est François Bordonneau qui vous proposera une œuvre d'Antoine Bélanger. Bonne semaine.